Je suis Justine Lefloc, je suis professeure associée à l'Université de Kyoto et ma spécialité est la littérature française du XVIIe siècle. Et l'année dernière, j'animais un séminaire qui portait sur la lecture des contes de Perrault. Donc c'est de ce point de départ que part ma réflexion, mais néanmoins, elle parlera finalement très peu de la version de Perrault, puisque la version du Petit Chaperon Rouge que je vous présente aujourd'hui s'en éloigne vraiment considérablement. Alors je vous invite tout de suite à découvrir cette présentation. Donc, le titre que j'ai choisi s'intitule Une réinvention japonaise du petit chaperon rouge, My Melody de Sanrio. Réinvention, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout d'abord, je vous présente le cadre dans lequel j'ai pu découvrir cette version. Il s'agit en fait d'une exposition qui a eu lieu en octobre et en novembre dernier à Kyoto, une exposition qui était entièrement consacrée à Sanrio, donc qui est une entreprise japonaise qui vend en fait un grand nombre de produits de papeterie et de produits dérivés et qui s'intéresse notamment au promu, le personnage de Hello Kitty qu'on connaît souvent en France. Et lors de cette exposition, eh bien, j'ai eu la grande surprise de découvrir le petit chaperon rouge dans une des vitrines. Alors, je voudrais juste vérifier que je partage correctement mon écran. Voilà. Et puis, ouvrir. Voilà. Le point de départ, donc, c'est cette exposition et j'ai découvert ces vitrines consacrées au petit chaperon rouge. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Les voilà. Donc, vous voyez ici, en fait, les vitrines de l'exposition dans lesquelles il y avait des dessins représentant le petit chaperon rouge et puis dans lesquelles il y avait également eh bien, des objets, un ensemble d'objets représentant aussi le petit chaperon rouge. Voilà. J'essaye de faire un partage d'écran pour continuer à avoir le zoom, mais là, je dois dire que je ne trouve pas cette option sur mon ordinateur. Donc, je vais faire comme cela. J'espère que vous voyez bien néanmoins. Oui, ça va, ça ira. OK. Alors, humblement, donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est l'enquête que j'ai menée à partir de cette surprise inaugurale d'avoir retrouvé ici, à Kyoto, ce petit chaperon rouge associé à une entreprise à l'imagination fertile, certes, mais surtout au capital prodigieux. En fait, dans l'appel qui a été proposé sur Internet pour ce séminaire, la question posée était la suivante. Que faut-il connaître du sens des récits de la tradition orale pour pouvoir les transmettre sans risque de perdre leur force initiatrice? Eh bien, le cas de My Melody entre sans doute dans ces versions décevantes qui étaient évoquées dans l'introduction, ces versions dans lesquelles il n'y a effectivement pas beaucoup de travail intérieur. Mais c'est aussi l'exemple remarquable d'une circulation massive du conte, au point que l'on peut aller jusqu'à se demander si ce n'est pas l'une des versions du Petit Chaperon Rouge qui a le plus de succès aujourd'hui. Restera évidemment à mesurer ce qui se perd, ce qui se déplace et ce qui se transforme. Pour comprendre cette circulation du personnage du Petit Chaperon Rouge à travers son ersatz, qui est My Melody, je pense qu'on peut se référer au concept de trivialité. La trivialité, en langage courant, c'est un mot plutôt péjoratif, qui permet de désigner ce qui est banal, ce qui est sans originalité, voire parfois grossier. Et on peut même lire dans le dictionnaire de Furetière que c'est ce qui est dans la bouche de tout le monde. En fait, étudier la trivialité, cela peut correspondre à étudier le fait que My Melody circule sur toutes sortes de supports que nous verrons ensemble. Mais le mot trivialité, c'est aussi un concept qui a été développé par Michel Jeanneret pour étudier la circulation des êtres culturels. En fait, il utilise ce concept pour désigner les processus de communication par lesquels les savoirs et les valeurs de la culture gagnent des espaces sociaux variés. En fait, il veut montrer comment divers acteurs sociaux, comme dans le marketing ou le journalisme ou bien par les réseaux sociaux, utilisent des processus communicationnels et médiatiques pour produire du pouvoir et de la valeur par des référents culturels. Dans littérature et trivialité, il étudie par exemple la circulation d'une figure littéraire qui franchit les bornes de la culture commune et scolaire, qui la rend classique, et atteint d'autres espaces de circulation. Et il montre de cette manière en quoi ces processus médiatiques permettent une institution ordinaire de l'extraordinaire. Et donc l'interrogation qui est posée est de comprendre comment ces figures littéraires sont métamorphosées dans ce processus. Alors c'est ce type d'enquête que nous allons mener avec My Melody. Alors tout d'abord, voyons comment on passe du personnel de Little Red Riding Hood à My Melody. D'abord, une brève présentation de Sanrio, cette entreprise qui a été créée dans les années 60 et qui continue encore aujourd'hui, puisque maintenant elle appartient au petit-fils de son créateur depuis 2020. Au départ, Sanrio produit des sandales avec des motifs fleuris. Et puis, progressivement, comme les motifs fleuris fonctionnent bien, ils ajoutent des personnages de dessins animés, notamment le personnage de Snoopy, grâce à des droits achetés aux USA. Et puis, comme ça fonctionne encore mieux, eh bien, ils recrutent des dessinateurs. D'abord, l'un d'entre eux qui crée Koro-chan, qui est un ours, puis Hello Kitty, et vient une créatrice, une femme, qui dessine deux personnages avec un succès absolument époustouflant. Le premier est Little Twin Stars, et le second, Little Red Riding Hood. C'est cette femme qui est donc la créatrice de My Melody. Voilà, cette femme s'appelle Yasuko Matsumoto et elle crée ce personnage en 1975. Alors au début, ce qu'elle envisage, c'est un animal mignon. Elle crée donc d'abord un lapin et elle lui ajoute un bonnet rouge. Alors de son point de vue, il s'agissait donc de proposer un personnage qui cumule à la fois les traits d'un animal et celui d'une petite fille, le petit chaperon rouge. Elle crée un animal anthropomorphe, chose qui est très fréquente aujourd'hui dans l'imaginaire japonais, mais qui à ce moment-là est encore relativement originale. Elle envisage de créer une petite fille, un vrai petit chaperon rouge sous les traits d'une enfant, encore plus jeune que dans la version du conte qu'on connaît, mais elle renonce parce qu'elle ne souhaite pas être aussi proche de la version originale du conte, elle entend bien créer son personnage. Très vite, le changement de nom survient, de Little Red Riding Hood vers My Melody, et un peu par hasard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justification qui est donnée à ce choix. Dans une interview, elle affirme qu'elle a bien conscience que les contes européens sont cruels et qu'ils font peur. Alors, il faut réussir à mettre cela à distance, parce que ce n'est pas très agréable tout de même. Dans les planches que vous avez sous les yeux, ce sont des publications de la fin des années 70 dans un magazine qui s'appelle Ichigo Shimbun, qui est en fait le magazine de l'entreprise Sanrio. Il y a un nombre immense de numéros pour ce magazine qui continue encore et qui est publié mensuellement. Ce qu'on voit ici, c'est la réinvention du personnage, donc qui n'est pas une petite fille, qui n'est pas un petit garçon, mais qui est bien un lapin. On voit aussi le loup. Le loup qui apparaît comme un personnage avec la langue pendante, avec des traits arrondis. En fait, ce loup a pour fonction d'avoir l'air un peu niais. Et puis, on voit son nom, My Melody, qui peut déjà être imaginé puisqu'elle apparaît dans la sixième image en train de chantonner. Alors, que retrouve-t-on des versions européennes dans cette version japonaise ? Eh bien, on retrouve plutôt la version de Grimm, puisque le chasseur ici intervient sous les traits d'un ours et le dénouement est heureux. On voit aussi que la mère donne des conseils à sa fille. Elle lui dit de ne pas faire de détours, de ne pas parler aux étrangers, donc davantage que dans la version de Perrault. Et puis, par ailleurs, il y a une insistance forte sur le fait que la jeune fille rompt la promesse qu'elle a faite à sa mère. Elle revient à la fin de l'histoire en expliquant qu'elle ne rompra plus ses promesses et qu'elle les tiendra. On retrouve aussi quand même des traces de Perrault, puisqu'il n'y a pas ici de vin. La nourriture que la jeune fille, que le lapin apporte à sa grand-mère n'est pas du vin, mais plutôt un gâteau au beurre. Donc on n'est pas dans l'alimentation prévue par Grimm. Et puis, on peut aussi retrouver quelques éléments peut-être liés à Disney. Par exemple, le fait que ce soit de l'anglais plutôt que et non pas de l'allemand ni du français, mais peut-être aussi la présence de l'humour par le personnage du chat et du chien, qui est aussi présent dans le film de Disney. Mais très vite, ce personnage évolue. Et nous passons donc à la slide suivante. L'évolution du personnage est très rapide, puisque dès 1976, eh bien, My Melody, qui avait auparavant un bonnet rouge, dont on a déjà vu la force symbolique, eh bien, perd cette couleur et on trouve un bonnet de couleur rose. Et puis, en revanche, s'ajoutent des amis. Le personnage devient ami avec une petite souris, et puis progressivement, on lui donnera aussi un petit frère, et puis un grand nombre d'autres amis. Autre élément, on aperçoit cette oreille légèrement pliée. Alors, ça n'a l'air de rien, cette oreille pliée, mais en fait, du point de vue de la dessinatrice, eh bien, c'est un des changements majeurs qui la conduisent à donner à son personnage une véritable autonomie pour Sanrio. En 1991, on retrouve bien le rouge, si bien que même si la trace du petit chaperon rouge semble exclusivement réservée à l'année 1975, en fait non, on la retrouve un peu plus tard. Et c'est également le cas dans les années 2000, quand Sanrio décide de sortir des objets qui reprennent l'esthétique initiale. En 91, le rouge réapparaît pour ce personnage pour une raison en fait très, très simple, qui est qu'au même moment, un autre personnage de l'entreprise, le personnage de Hello Kitty, quant à lui, utilise du rose. Alors, il ne peut pas y avoir deux personnages à la fois qui ont la même couleur. Ce qu'on peut observer de toute évidence, c'est que ce personnage connaît une féminisation très forte, puisque la gamme devient très rose, particulièrement fleurie, et que finalement, le genre du personnage est bien plus marqué dans ses figurations récentes que dans ses figurations initiales. Alors, ce qui apparaît, c'est que ce personnage correspond en fait parfaitement à ce que l'on appelle l'esthétique kawaii. Pour comprendre ce qu'est l'esthétique kawaii, il y a un article qui est très utile. C'est l'article Cuties in Japan, écrit par Sharon Kinsella en 1992. Et c'est sur lui et sur des analyses de Kumiko Sato que je me fonde pour montrer en quoi le personnage de My Melody est non pas seulement représentatif, mais on peut même dire l'un des éléments qui construisent la culture du kawaii au Japon. Alors, ce qu'on peut comprendre d'abord, c'est que le kawaii est une sous-catégorie de jugement esthétique. C'est-à-dire que l'on peut qualifier un objet de beau, de sublime, de kitsch, mais aussi de kawaii. En fait, cette catégorie esthétique est souvent considérée comme mineure et dévaluée, de la même manière que l'est le kitsch d'ailleurs, et qu'elle est davantage liée au secteur commercial qu'au monde de l'art. Cette dévaluation se manifeste de cette manière. On perçoit moins l'objet kawaii comme un objet d'art que comme un objet commercial. Cela apparaît au Japon au cours des années 70 en raison de la concomitance de plusieurs phénomènes, d'une part l'apparition d'un type d'écriture féminine très arrondie qui fait l'objet d'une grande panique scolaire, et c'est intéressant parce que l'on se rappelle que Sanrio est une entreprise de papeterie, et puis l'apparition aussi d'un langage nouveau, déformé, pour avoir un style enfantin. Se développe aussi à cette époque une culture du journal intime chez les jeunes filles, de la lettre. Et donc on comprend pourquoi Sanrio joue un rôle important dans ce contexte. Quels sont ces critères esthétiques du kawaii? Alors c'est très simple, ce sont des objets petits, des couleurs pastels, rondes, et puis des éléments doux. Il faut un personnage qui ressemble à un mammifère, mais qui n'ait aucun orifice et plutôt pas de bras. Et puis, le kawaii se caractérise aussi par l'utilisation massive du français ou de l'anglais. C'est intéressant parce que cela marque le désir dans cette esthétique de s'éloigner de l'esthétique japonaise traditionnelle. Il s'agit bien d'une esthétique identifiée comme jeune qui se démarque de l'esthétique japonaise. Et quels sont les critères moraux qui apparaissent dans cette esthétique kawaii, qui est dans cette catégorie? Eh bien, on voit des personnages qui se présentent comme craintifs et innocents, comme fragiles, parfois un peu tristes, et qui sont fortement associés à l'enfance. L'objectif est en effet de produire sur le spectateur de la pitié, de la compassion et de l'attachement. En fait, on peut résumer le kawaii comme le fait qu'un objet produise une affection envers ce qui exprime la vulnérabilité. Sharon Kinsella exprime l'idée du kawaii par le terme childlikeness, c'est-à-dire le fait d'avoir l'air d'un enfant, parce que l'enfance est fortement idéalisée. Et on peut appliquer cette catégorie à toutes sortes de choses. On peut l'appliquer à des personnes, à des images, mais on peut aussi l'appliquer à des vêtements, à de la nourriture. La nourriture peut être kawaii, ce sera de la nourriture sucrée avec beaucoup de lait. Politiquement, d'après l'article de Sharon Kinsella, il faut comprendre le kawaii comme une manière d'échapper à la réalité contemporaine pour des jeunes adultes, et en particulier des femmes. C'est une manière d'échapper à des perspectives d'avenir très contraintes et au désir de retarder le moment d'endosser les responsabilités associées au rôle de mère et d'épouse. Ce serait presque une forme contre-initiatique, d'une certaine manière, ce qui est intéressant, je crois, au regard de ce qui était soulevé dans l'introduction par M. Aubray. On peut aussi y voir une forme de rébellion contre des normes traditionnelles et les valeurs qu'elles sont appelées à embrasser. Alors, quelle est donc finalement cette dimension kawaii du petit chaperon rouge? Eh bien, d'abord, on voit qu'il s'agit bel et bien d'un personnage associé à l'enfance, encore plus jeune que le petit chaperon rouge, et très loin de la jeune fille sexualisée de la version de Perrault, qui entrerait dans l'âge des premiers amours. Au contraire, ici, My Melody est pleinement rattachée à son environnement familial, à sa mère, sa grand-mère et aux chasseurs. Et puis, c'est un personnage associé à la vulnérabilité, un lapin blanc, qui ignore tous les dangers. Enfin, c'est une jeune fille qui choisit délibérément de rester cueillir les fleurs, jouer avec les papillons, bien loin de ses responsabilités. Alors, peut-on dire que cette image de My Melody invite à la relecture du conte de Perrault ou des versions européennes du Petit Chaperon Rouge? Que nous enseigne My Melody sur le Petit Chaperon Rouge? Bon, je crois que le premier grand enseignement venu du Japon, c'est que le petit chaperon rouge est un personnage mignon. Chez Perrault, il y a une forte sexualisation, une leçon morale sur la distraction, et cela occulte considérablement cette dimension. Le personnage est tout de même nettement moins attachant. Et puis, la version japonaise nous invite aussi à voir que le personnage du petit chaperon rouge cultive un rapport à autrui et un rapport au monde qui peut être louable. My Melody aime les animaux. Elle aime la nature, elle a beaucoup d'amis. Ce serait presque un récit antispéciste, presque éco-friendly, si Sanrio n'était pas une entreprise capitaliste, comme nous allons le voir dans un instant. Donc, ce que je voudrais montrer surtout, c'est à quel point cette version du petit chaperon rouge venue du Japon nous enseigne sur le fait que le capital des contes n'est pas qu'un capital culturel, mais aussi un capital économique. Et c'est ce que nous allons voir dans un instant. Hop, le développement commercial. Le développement du commercial du personnage entraîne en effet l'apparition d'autres motifs, d'autres scénarios et d'autres représentations associées à My Melody, et nous allons nous éloigner progressivement du petit chaperon. Voici par exemple une série de cartes de vœux envoyées au Japon au Nouvel An et en été. Alors il n'y a pas le petit chaperon rouge à New York, mais il y a tout de même My Melody à la neige avec son ami l'écureuil, My Melody et le loup à la plage qui font des châteaux de sable, du ski nautique, My Melody qui déguste un repas avec ses amis. On voit que le loup devient ami avec le chaperon rouge. Alors cela est un peu étrange tout de même, ce n'est pas fréquent peut-être de devenir ami avec quelqu'un qui a voulu vous manger. Et la dessinatrice, bien consciente du paradoxe, commente ce choix en expliquant qu'elle a choisi de laisser parler son imagination. On notera que cette tendance est également présente en France dans les réécritures des contes, puisqu'il y a bien souvent des plaidoyers en faveur du méchant. Par exemple, Christophe Maury, qui écrit « Le petit pousset, c'est moi », raconte une correspondance entre le petit pousset et l'ogre après les scènes qu'on connaît. On notera aussi que dans cette collection de cartes, le contexte japonais n'est visible que sur une seule, la carte de bonne année, qui représente une table basse japonaise et puis des kagami mochi qui fait référence à l'année du singe, année lors de laquelle sont parues ces cartes. Ce n'est pas tout. Voici ensuite une autre gamme de produits commerciaux développés par Sanrio. Ici, on voit que le petit chaperon rouge se décline sur toutes sortes d'objets, de la papeterie, mais aussi des lampes, des tasses et encore des calculatrices. Et puis, nous voyons aussi un superbe pyjama à taille adulte et également des masques pour être très esthétiquement convenables en plein Covid. Ce n'est pas tout. Rapidement aussi, l'entreprise se diversifie. Elle ouvre ainsi un restaurant café à Osaka en 2019. C'est le restaurant My Melody. Et comme vous le voyez, on peut y consommer de délicieux parfaits aux fraises, mais aussi des plats un peu plus curieux, à base de riz et de curry, toujours à l'effigie de My Melody, Petit Chaperon Rouge. Il y a encore une émission de télévision de 2005 à 2006, intitulée Onegai My Melody, en pas moins de 52 épisodes. Et puis, une émission de radio de conseils psychologiques à partir d'avril 2019, dans lequel My Melody offre une oreille bienveillante, puisque le Petit Chaperon Rouge est un personnage empathique, comme nous l'avons déjà vu. Enfin, est publié un livre à partir de cette émission de radio, puis un second livre, My Melody et Confucius, en 2019. Et on n'oubliera pas le secteur bancaire, puisque au Japon, il est tout à fait naturel que les secteurs de l'assurance et des banques utilisent ces personnages fort mignons, comme nous l'avons dit, pour vendre des cartes de crédit. Alors, dans sa psychanalyse des contes de fées, Bettelheim décrivait le conte du Petit Chaperon Rouge comme un conte initiatique destiné à enseigner à l'enfant la confrontation du principe de plaisir au principe de réalité. Et il écrivait cette phrase remarquable « Le conte ne fait pas voir la vie en rose ». Il analysait la couleur rouge comme le symbole de la sexualité naissante de la jeune fille qui serait débordée par ses émotions nouvelles. Et il reprochait à Perrault d'avoir proposé un Petit Chaperon Rouge trop évidemment moralisant, de l'avoir simplifié à l'extrême. Selon lui, on supprime toute la valeur du conte de fées si on précise à l'enfant le sens qu'il doit avoir pour lui. Alors, je me suis demandé qu'est-ce que Bettelheim aurait bien pu percevoir de My Melody, ce personnage qui déborde de rose. Eh bien, précisément, c'est une réinvention qui fait voir la vie en rose. My Melody est la métonymie de la jeunesse qui choisit le principe de plaisir et accepte de payer le prix de cette illusion, concrètement, hein, parce que ce sont des objets chers, et le prix de cette folie. Le personnage subit les assauts du loup, parvient à être sauvé et devient tout de même ami avec ce loup. Elle choisit donc de persévérer dans son erreur initiale, faisant de la leçon reçue qu'était chez Perrault l'acte d'être dévoré, un accident dans le cours naturel des choses qui est plutôt celui de l'entente harmonieuse dans les espèces. Et c'est là qu'on retrouve Confucius, un peu. Les clientes et les fans sont quant à elles des jeunes femmes qui ont déjà, depuis longtemps, quitté l'enfance, mais qui choisissent d'y replonger, dans le temps court d'un brossage de dents ou dans l'espace mineur de liberté d'expression qu'offre l'étiquette d'un stylo, ou le pendentif accroché à un veston. Alors récapitulons, que perd-on dans ce personnage de My Melody? Que peut-on observer dans les processus de transformation et dans leur manière de circuler? Je relèverai trois procédés. Le premier est celui de l'iconisation, c'est-à-dire que par rapport au conte, eh bien, avec My Melody, on perd tout à fait la dimension narrative du conte, puisque ce ne sont que des images. Des images qui ne saisissent qu'un seul instant. Dans les images que je présente sur ce slide, il y a d'abord un tableau. C'est donc encore une image qui saisit un instant, mais qui continue à s'inscrire dans un cadre narratif qui est évoqué par les accessoires, les objets. Le petit chaperon rouge et son amour pour sa grand-mère. Dans le second, on est dans l'icône, où il y a My Melody seule et où les signifiants se réduisent profondément, si bien que la seule construction du sens possible est à partir de la couleur rouge. C'est une icône parce que c'est un référent partagé, facilement reconnaissable et qui présente une dimension métonymique. Il renvoie à un ensemble de valeurs par convention socioculturelle. Mais je crois qu'ici, ce sac ne renvoie pas particulièrement au petit chaperon rouge. Il renvoie davantage au kawaii lui-même, puisque aujourd'hui, c'est le sens qui domine. Deuxième procédé, la stéréotypie. Puisque l'icône est associée avec un slogan écrit en anglais, c'est-à-dire encore une fois en langue étrangère pour les Japonais. Cette écriture est aussi enfantine, comme vous le voyez, caractéristique donc du kawaii dans les années 70 et de son histoire. Et dans ces slogans, on voit un vocabulaire de l'amour, de l'enfance, du bonheur et de la féminité. Ce sont des phrases qui explicitent en fait ce qu'est le kawaii sur le support lui-même qui a participé à son émergence. Enfin, dernier procédé, l'autonomisation, puisque à partir de l'icône et de ses stéréotypes, eh bien, l'entreprise procède à une réinvention totale du personnage. Dès sa création, le personnage est vidé de sa signification morale puisque la dessinatrice a jugé les contes de fées trop cruels et s'en est donné le droit. Elle a choisi un personnage de loup qui n'est pas un grand méchant, mais un personnage un peu bête, voire mignon parfois, et qui deviendra l'ami du chaperon rouge. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est que le loup, eh bien, est finalement de couleur orangée et non pas noire, qu'il n'a pas de dents, qu'il a plutôt un nez qui évoque même un sourire. Il est de la même taille que le personnage et légèrement en retrait. Tous les deux sont liés par un grand cœur. L'image de droite montre My Melody dans une pyjama party avec une amie et My Melody en sirène. Alors là, on est dans la perte totale du référent Little Red Riding Hood. Ainsi, c'est donc bel et bien un déplacement de la valeur iconique. Non plus une icône qui renvoie au petit chaperon rouge, mais une icône qui renvoie au kawaii qu'elle a contribué à façonner. Là-dessus, j'en viens à ma conclusion. Pour la conclusion, qui va être brève, j'avais envie de m'interroger sur le concept d'appropriation culturelle dont vous avez certainement entendu parler. Je vais être brève par rapport à ce que j'avais prévu à ce sujet. Le concept d'appropriation culturelle, elle s'emploie surtout dans un cadre colonial, postcolonial. Et donc, cela ne s'applique pas au cadre japonais. Par ailleurs, il relève d'une difficulté pour bien distinguer ce qui relève d'un échange entre des cultures, ce qui relève de l'appropriation culturelle légitime et ce qui relève de l'appropriation culturelle illégitime, puisqu'il existe des appropriations culturelles qui ne sont pas illégitimes. Peut-on employer ce mot dans le cas de My Melody? Je répondrai que non. L'expression ne fonctionne pas, tout simplement parce que le Japon et l'Europe ne sont pas dans une relation de subordination. Et puis, parce qu'on parle d'appropriation culturelle lorsque une communauté est privée de ce qui lui appartient. Or, je pense que identifier cette communauté dans le cas du petit chaperon rouge est délicat. S'agit-il de la France, de l'Allemagne, de l'Europe? Je ne crois pas qu'il existe quelque chose comme une communauté qui posséderait le petit chaperon rouge. Donc je pense que ce concept ne fonctionne pas. En revanche, je crois qu'on peut bien parler d'une vexation culturelle. Parce que, eh bien, d'abord, disparaît complètement la référence à la source. Little Red Riding Hood ne se trouve nulle part lorsqu'il est question de My Melody. Donc la source disparaît. C'est un premier point. Deuxième point, le conte est vidé de sa signification originelle en raison de la critique par la dessinatrice qui juge les contes trop cruels. Là, deuxième vexation. Troisième vexation, eh bien, il y a une suppression pure et simple de l'imaginaire qu'elle avait emprunté, puisqu'elle ajoute des animaux, passe du rouge au rose et autonomise complètement My Melody dans son propre univers. Et puis enfin, on peut constater que My Melody fait l'objet d'un gain financier immense. Autrement dit, qu'il y a une meilleure capitalisation sur le patrimoine européen que ce dont on a l'exemple en Europe. Que ce soit sur le plan du chiffre d'affaires, de la circulation ou de l'évolutivité du personnage, on peut dire que c'est un franc succès. Alors, à partir de tout cela, eh bien, je ne saurais dire dans quelle mesure on peut juger cette version comme décevante ou en tout cas source de questionnement, mais je m'en remets maintenant à vos questions et discussions à ce sujet. Je vous remercie pour votre écoute.